Les rendez-vous culturels de RCF Isère, une réalisation Jean Vezou.
Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Fabrice Vigne. Comment le désigner ? C'est un écrivain, un lecteur, un musicien ? Ben, il précisera lui-même peut-être. Rendez-vous pour parler de Viron Sucy, titre d'un livre dont il est l'auteur, mais pas le seul. Il va préciser cela aussi. Bonjour Fabrice Vigne.
Bonjour.
Alors, Viron Sucy a un sous-titre. Un sous-titre qui est « Fais-moi peur, saison 5 ». Alors ça veut donc dire que ce bouquin dont on va parler, il a des antécédents.
Alors oui, « Fais-moi peur », en fait, c'est le titre du spectacle. Depuis 6 ans maintenant, je fais avec mon complice et le co-auteur du livre, donc Olivier de Stéphanie, qui est musicien et compositeur, une série de spectacles, on en fait un par an, qui s'appelle Fais-moi peur, où je suis le lecteur de textes d'épouvante qu'on puise dans le répertoire, particulièrement 19e-iste. Je lis du Edgar Poe, du Maupassant, on va jusqu'à Lovecraft, que moi j'aime beaucoup, c'est un écrivain fantastique préféré. Il y a du Dickens, je ne sais plus ce qu'on a fait. Et au fil des années, on s'est piqué au jeu et on s'était dit ce serait pas mal aussi de faire notre propre histoire, d'écrire une histoire originale qu'on ferait dans les mêmes conditions que les spectacles Fais-moi peur, c'est-à-dire qu'on compose de la musique avec ça, on le confie à l'orchestre à cordes de 3e cycle des bains qui s'appelle Les Aventuriers de l'Archer Perdu, c'est très spirituel, dirigé par Christine Antoine. Et donc voilà, ce Fais-moi peur saison 5, c'est pas vraiment le sous-titre du livre, c'est le titre du spectacle qui est lié au livre.
Et là, vous vous êtes dit, on écrit soi-même les choses, on, je, nous.
Alors, on l'a écrit à deux, mais le texte est né de conversations entre Olivier et moi. Qu'est-ce qu'on voulait mettre? Quelle histoire on voulait raconter? On a décidé très vite, tout de suite, que ça se passerait dans le milieu de la musique, pour que le fait que ce soit un spectacle musical ait du sens à la fois dans le fond et dans la forme. Donc le narrateur de cette histoire est un contrebassiste dans un orchestre baroque, et pour cela on a puisé directement dans l'expérience d'Olivier, puisque c'est son cas. Il est contrebassiste, il est par ailleurs tromboniste, mais il est entre autres contrebassiste, et donc il a des souvenirs de tournées avec des orchestres assez prestigieux à l'étranger, et c'est de ça qu'est né. Après, il y a on a puisé dans une légende finlandaise, qui est la légende du Viron Sucy.
Qui est une vraie légende?
Qui est une vraie légende, absolument. Qui est le loup-garou. Le lycanthrope, hein, ça existe dans plein de cultures différentes. Il y a une origine, celle qu'on connaît le mieux, qui est des Grecs, hein, c'est dans les métamorphoses. On parle de ça, je sais plus exactement, mais c'est apparu dans plein d'autres endroits, et y compris dans des cultures nordiques. Et donc, chez les Finlandais, le loup-garou s'appelle Viron Sucy, et c'est une variante assez particulière du loup-garou qui est très, très mélancolique, qui est plus tragique que vraiment horrifique. Ça m'a beaucoup plu, j'ai été très sensible à ça. Ouais.
Alors vous vous êtes dit collectivement, je m'y mets.
Comme un seul homme, oui absolument, c'est ça. Alors, pour la plupart des scènes, pas toujours, mais souvent, c'est Olivier qui écrivait le premier G, puis moi, je reprenais son texte et j'en faisais le deuxième G, puis il corrigeait, il faisait le troisième, puis moi, je faisais le quatrième, et à partir de là, je retravaillais ça comme si c'était un manuscrit dont j'étais le seul auteur, c'est-à-dire j'ai pas changé mes méthodes de travail. C'est-à-dire qu'à partir du quatrième G, j'ai écrit le cinquième, puis le sixième, puis le septième, puis le quatorzième, et puis celui qui est imprimé, c'est à peu près le vingtième. Ouais.
Alors donc, entreprise à deux, entreprise à trois, parce qu'il y en a aussi un qui a dessiné.
Oui, qui s'appelle Romain Sénéchal, et donc j'ai rencontré parce qu'il publiait un fanzine. Comment ça s'appelait? Oh, je voudrais pas l'écorcher, je crois que ça s'appelait Marmelade, que j'avais lu ça, et moi j'aime beaucoup ça, les fanzines, parce que les fanzines, c'est le do-it-yourself, hein, c'est le fait qu'on va pas s'embêter à chercher un éditeur. On a cette pulsion qui fait qu'on écrit et qu'on dessine. On a une imprimante et une agrafeuse, et hop, on a fait quelque chose qui ressemble à un livre, et on peut le distribuer autour de nous. Et moi, j'adore cette démarche, j'adore cet état d'esprit. C'est ce que je fais au fond du tiroir, en mieux, mais c'est ce que je fais au fond du tiroir, hein, finalement.
Précisons, le fond du tiroir, c'est votre maison d'édition.
Oui, alors si on fait
Un catalogue surabondant.
oh, ben on en est à 11 titres quand même, c'est pas mal. Oui, bon, pour préciser sur le fond du tiroir est une maison d'édition que j'ai fondée en 2008 grâce à l'argent que j'avais gagné sur les livres que j'avais publiés ailleurs. Voilà. Et notamment grâce au prix Rhône-Alpes Jeunesse qui m'avait été remis en 2008 pour le roman Les Gillettes. Voilà.
C'est ce qui s'appelle être autonome.
Oui, c'est le. La façon dont je me vois, moi, en tant qu'écrivain, je me pense vraiment comme un artisan. D'ailleurs, j'ai écrit un bouquin sur l'artisanat qui s'appelle Double Tranchant. Et
L'artisanat du couteau.
c'est ça, c'est du couteau que j'ai fait avec Jean-Pierre Blampin, qui est partiellement autobiographique. Et parce que je me considère comme un artisan, parce que. J'adore faire des livres, c'est très important pour moi, et j'adore publier chez des éditeurs, forcément. Mais et là, il y a mon dernier livre est paru chez Sarbacane, il s'appelle Fatale Spirale, je suis très content de ça, c'est une très bonne maison, Sarbacane. Mais comme tous les artisans, j'ai cette envie d'être mon propre patron. Voilà. Parce que le milieu de l'édition, quand on envoie un manuscrit pour trouver un éditeur, c'est pas très différent d'envoyer un CV pour se faire embaucher, hein, avec tout ce que ça peut avoir de gratifiant et tout ce que ça peut avoir de frustrant et de compromettant. Donc oui, moi j'avais cette envie d'être mon propre patron, d'avoir mon enseigne. Donc j'ai fondé le fond du tiroir en 2008 et aujourd'hui effectivement il a 11 catalogues, dont 11 livres au catalogue. Dont le dernier, Saphirin de Sucy. Et donc, pour en revenir à Romain Sénéchal, moi j'étais rentré en contact avec lui parce que j'ai toujours gardé de l'intérêt, de la curiosité pour les fanzines qui circulent autour de moi et son dessin me plaisait, m'intéressait. Donc, je l'avais branché au départ pour le spectacle d'ailleurs, pour Fais-moi peur, puisque il y a ces dessins ont été projetés. Pendant le spectacle d'il y a 2 ans, hein, Fais-moi peur, saison 3. Et donc, je l'ai embarqué dans l'aventure en lui disant, j'aimerais que ce livre soit illustré. Toujours parce que notre modèle, c'est la littérature d'épouvante 19e-iste. Et donc, les livres illustrés de cette époque-là, que ce soit Bram Stoker, qu'on avait utilisé pour une autre saison de Fais-moi peur, ou d'autres, c'est ce noir et blanc très contrasté. Il a relevé le défi, c'est-à-dire qu'il a mis de côté une tendance naturelle chez lui qui était la bande dessinée avec certains effets de bande dessinée que par ailleurs j'aime beaucoup mais qui là était hors sujet. C'est-à-dire qu'il s'est vraiment plié à ce modèle de la gravure d'épouvante classique, quoi.
Alors, mais comment vous avez coordonné les trois talents?
Alors, avec Olivier, on se voit quasiment quotidiennement, puisqu'on travaille quasiment côte à côte. On travaille tous les deux au Centre culturel L'Odyssée à Hébin, moi à la médiathèque, et lui à l'école de musique. Donc, c'est vraiment mon voisin de palier, hein. Donc, on a fait pas mal d'allers-retours entre les deux équipements. Avec Romain, c'était plus difficile, puisqu'il a déménagé, il habitait plus loin. Donc, ça s'est fait par correspondance, ça s'est fait par mail. Mais d'assez
Oui,
près.
mais qui passait commande à qui et de quoi?
Ah ben, là, j'assume parfaitement la casquette d'éditeur, puisque c'est publié au fond du tiroir. Donc le chef d'orchestre, c'était moi.
C'est-à-dire que vous avez passé commande pour une musique ou des musiques. On parlera du CD qui accompagne tout à l'heure.
Alors non, pour le CD, Olivier était vraiment très autonome, même si moi je pouvais donner mon avis sur certaines choses. Mais on parle du CD ? Bon, parlons du CD. Oui,
allons-y. Oui, enfin, oui, pourquoi pas. Donc, on reviendra au bouquin tout à l'heure.
Ok. Donc, le livre est accompagné d'un CD qui comprend 7 plages. Les 6 premières sont les compositions d'Olivier pour le spectacle. Presque toutes. Il y en a 2 qu'il n'a pas eu le temps d'arranger, qui figurent dans le spectacle, mais qui ne figurent pas sur le CD, et qui constituent la bande originale du roman. Voilà, ça aussi, c'était une envie de départ. C'était faire vraiment quelque chose, penser la chose multimédia, c'est-à-dire écrire le roman pendant que lui rédigeait la musique. Le
dessinateur, lui, il a fallu qu'il attende le roman.
Non, parce qu'on lui envoyait, quand je vous dis qu'il y a eu près de 20 versions, chaque fois qu'il y en avait une nouvelle qui était au point, il la recevait. J'espère pour lui qu'il n'a pas lu les 20 versions, parce que parfois, c'est vrai que je suis assez maniaque.
Ça, c'est la cuisine.
Je suis assez maniaque, mais il y a certaines versions qui changeaient parce que j'avais déplacé un mot dans une phrase, enfin une phrase par paragraphe, mais donc les 20 versions n'étaient pas très différentes les unes des autres. Mais voilà. Et puis vu qu'on tenait absolument à ce que le bouquin soit sorti pour le spectacle, il y avait un délai à respecter. Et ça, je pense que c'est ce qui a été assez difficile pour lui. Mais il l'a fait avec brio. Et puis il y a un quatrième homme quand même que j'aimerais citer. C'est le metteur en page, le graphiste, qui est Patrick Villecourt, qui est mon fidèle partenaire depuis très longtemps, depuis l'origine du Fond du Tiroir, puisque c'est le cofondateur du Fond du Tiroir. C'est lui qui a dessiné le logo du Fond du Tiroir et qui a mis en page presque tous les livres du Fond du Tiroir, sauf 2, une période où il n'était pas disponible.
Mais elle n'est pas allée jusqu'à nous citer le nom du fabricant du papier choisi.
Non, mais alors volontiers, je peux citer l'imprimeur, parce que je trouve qu'ils ont fait un excellent boulot, c'est les Deux-Ponts. les Deux-Ponts, qui est une très bonne maison aussi.
Non. On en revient au roman. Alors comment, oui. C'est peut-être un problème très secondaire, voire tertiaire, voire au-delà. On appelle ça un livre illustré, on appelle ça un livre sonorisé, un livre musical, un livre comment? Ou un livre tout court?
Ah, oh, livre tout court, ça me va bien. Oui. Mais livre musical, ça me va encore mieux, je crois. Mmh. Oui. Parce que il est musical de plusieurs façons. C'est-à-dire qu'il est musical d'abord parce qu'il y a le CD, et puis d'autre part, il est musical dans ce qu'il raconte. De la même façon que dans Double Tranchant, je m'étais mis la tête dans la tête d'un artisan coutelier. Là, je me suis mis dans la tête d'un musicien. Et donc, c'est grâce à Olivier, hein, grâce à son témoignage de première main. Mais c'est un livre qui parle de musique beaucoup.
Mmh. Mais alors, quel est le mode d'emploi ? Parce que pour l'illustration, on tourne les pages, on lit, puis on tombe sur une illustration. On peut pas l'esquiver, à moins qu'on ferme les yeux volontairement. Mais pour la musique...
Alors, pour la musique, oui, quand je vous disais qu'on l'avait conçue comme la bande originale, c'est... le mode d'emploi, c'est celui de la bande originale d'un film. C'est-à-dire que quand on voit le film, on entend la musique sans forcément l'écouter. Et puis après, si on achète le CD ou si on écoute la musique par un autre moyen, puisque le CD c'est un peu désuet, un CD maintenant, il y a d'autres moyens d'écouter de la musique. Mais bon, je suis content aussi d'avoir fait un CD pour cette raison-là, parce qu'il y a ce côté à l'ancienne, hein, ce côté vintage. Mais une bonne bande originale de film, ça peut s'écouter. Très longtemps après avoir vu le film, voire sans avoir vu le film. Et donc Olivier a composé ses morceaux. Ses influences, il y a beaucoup de musique de film. Il est très influencé par Danny Elfman, par exemple, ou par d'autres. J'ai oublié le compositeur, celui qui a fait le Dracula de Coppola. J'ai oublié son nom. Mais c'est vrai que ça a été une influence explicite. Et puis d'autres. Il a fait une réduction pour Quatuor, pour certains des morceaux. On sent qu'il a derrière lui une bonne connaissance de la musique française, Ravel, Debussy. Voilà. Donc le CD est à la fois... un complément de l'histoire. Et puis aussi, j'espère qu'il peut s'écouter comme une fin en soi.
Alors, venons-en à l'événement. L'événement, c'est le 21 janvier à l'Odyssée des Bains à 20h ou 20h30, 20h. 20h. Alors, qu'est-ce qui se passera ce soir-là? Parce que le livre vient de sortir, c'est une soirée sur le livre, sur le spectacle. Qu'est-ce qui va se passer?
Alors, le spectacle est une autre version de la même histoire. Alors, elle est...
Ou alors, est-ce que c'est secret? Faut pas le dire?
Si, si, on peut le dire, mais j'essaye de trouver les bons mots. Parce qu'il y a quelque chose qui m'ennuie de dire, c'est que c'est un peu édulcoré.
Ah oui, parce qu'il ne faut pas cacher qu'il y a certaines scènes qui sont un peu rudes, dirons-nous.
Oui, voilà, c'est ça. La différence entre les deux versions de l'histoire, c'est que le livre est, sinon pour adultes, au moins pour grands ados. Mmh.
Public averti.
Voilà, public averti. Il y a des scènes assez violentes et il y a même des scènes de sexe. Oui, oui, puisque c'est...
Ils sont assez rudes aussi.
Oui, oh oui, il y en a même une qui est assez répugnante, c'est une scène de viol. Parce que...
Public averti en vaut deux.
Tout à fait. Parce qu'on ne voulait pas éviter cet aspect-là de cette mythologie de l'homme animal. Voilà, donc il fallait qu'on le traite dans le livre. Alors que le spectacle est pour tout public, je ne sais plus si on a mis à partir de 10 ans ou 12 ans, donc ce sont des aspects qui n'apparaissent pas dans le spectacle. Mais ceci dit, c'est la même histoire, avec beaucoup moins de ramifications. Il y a hélas beaucoup de personnages secondaires qui passent à la trappe dans le spectacle. C'est dommage parce que je les aime bien, mais il faut qu'on s'en tienne à un spectacle qui fait 1h20. Donc le livre fait, je ne sais plus combien, 190 pages. Ça doit correspondre à, le spectacle doit correspondre à entre 30 et 40 pages du livre. C'est, on refait la trame et...
Il y aura un lecteur, vous, il y aura un orchestre.
C'est ça.
Il y aura une projection d'illustration.
Oui, voilà, c'est ça.
Vous tout deviner.
Mais oui, oui.
Bien, merci Fabrice Vigne. Alors rappelons que la présentation du livre, du roman, du livre musical, du livre sonorisé, qui se nomme Véron Sucy, aura lieu le 21 janvier à l'Odyssée des Bains à 20h.